Quand nos parents sont rentrés, ils ont été obligés d'enlever les ronces et nettoyer, et parce que c'était mis à l'abandon, ce quartier-là.
Et nous sommes rentrés dans Basso en quelle année ? 54 ?
52, non ? 53 ou 54, je ne me rappelle pas exactement.
C'est ça, on perd un peu aussi le... Parce qu'on n'a aucun papier qui nous rappelle la date.
Le quartier de Basso se situe à l'ouest d'Angoulême. Il tire son nom de Basses Eaux, les eaux de la plaine du fleuve Charente dans laquelle il se situe. Durant la Première Guerre mondiale, un camp de travailleurs y est construit pour loger une main-d'œuvre indo-chinoise destinée à travailler pour la poudrerie. Cette population, installée là de force, y vit dans des conditions concentrationnaires. En 1940, pendant l'occupation, le camp, aux mains des Allemands, devient une prison pour les résistants. À la libération, le camp change encore de main et on y enferme alors les prisonniers allemands. Après-guerre, les lieux sont laissés à l'abandon et la nature y reprend progressivement ses droits. Jusqu'au début des années 1950 et l'arrivée de centaines de familles qui défrichent et squattent ce qui reste des baraquements.
Au début, il n'y avait pas de bâtiment, hein, c'était que le quartier de Basso, le camp de Basso.
Le camp, disons, c'est un ancien camp militaire.
Voilà,
ouais.
qui était, on le voit sur les photos, qui était quadrillé, grillagé, barbelé autour. Voilà. Et d'ailleurs, nous, quand on est rentrés, il y avait toujours les barbelés.
On vivait derrière les barbelés, des murs avec des barbelés.
Ah oui, complètement. Ouais. D'ailleurs, quand on regarde la photo, on s'aperçoit que tout le quartier est en tenue de camouflage.
Oui, d'accord.
Les maisons, le château d'eau, et on le voit bien ici. Où c'est qu'on le voit bien ? Je l'ai vu tout à l'heure.
Non, c'est peut-être sur la photo, là.
On voit bien que les toitures... C'est sur quelle photo je l'ai vu ?
Là, non ?
Non, non. Mais on voit bien que... on voit le château d'eau, là, qui est en tenue de camouflage. Hein, et toutes les... Voilà. Vous voyez les toits sont en tenue de camouflage, comme les treillis des militaires, quoi. Donc c'était pour être protégé, j'imagine, d'une éventuelle aviation ennemie. Donc on voit bien ici que tout est en tenue de camouflage.
Hein. Nous étions à la campagne, dans le Cofolanté. Mon papa était métayer dans une grande ferme. Et nous sommes venus à Basso parce que nous étions déjà 4 enfants. Basso, c'était vraiment pratiquement que des familles nombreuses. Hein. 6-7 enfants dans toutes les familles.
Moi, je suis né à Tiffilès, qui n'existe plus. Ça a été rasé. Mais mes parents étaient de Bédrabine. Mes grands-parents étaient de Bédrabine, hein, qui se trouve à une soixantaine de kilomètres d'Oran. On est venu à Angoulême parce que le frère de mon père, mon oncle Cadour, était déjà installé à Angoulême et à Basso. Et il lui avait trouvé du travail, ce qui lui a permis de venir en France et on s'est installé donc à Basso.
Mes parents étaient d'un autre quartier d'Angoulême, ils habitaient Saint-Cybard. C'était des jeunes évidemment et ils vivaient chez les parents de ma mère. Et comme la famille s'agrandissait, c'était plus possible. Ils avaient déjà 3 enfants, maman en attendait un 4e. Donc il fallait trouver une solution. Et ils ont entendu parler comment, je ne sais pas précisément, mais qu'on pouvait squatter cet ancien camp militaire à Basso. Donc ils ont pris leurs 4 meubles et leurs 4 guenilles et ils ont investi le 96 cité de Basso. Voilà, ça c'était en 1951, en janvier, je crois.
Parce que ça ne devait pas être cher, certainement. Hein.
Voilà, c'était bon marché.
Papa, il n'était pas fortuné, ni maman.
Il faisait quoi, vos parents ?
Ouais, mon père était préposé au poste. Hein. Donc ça s'appelait comme ça, je ne sais pas quelle fonction ça avait. Quant à ma mère, eh ben, elle s'occupait des enfants, donc elle était...
Mère au foyer.
Et
finie à la rue d'Angoulême.
Avec peu de moyens, et on s'est retrouvés là-bas, comme des centaines de familles. Alors, il n'y avait pas que des gens de petits moyens, puisqu'il y avait pas mal de... Le haut du quartier, parce qu'il y avait le bas et le haut du quartier.
Et donc le bas était plutôt, c'était plutôt la cour des miracles. Et la partie du haut, c'était plus les gens qui travaillaient à la SNPE, la poudrerie D'accord. nationale. Eh bien, bah, c'était en fait c'était bah, des gens de faible budget. Voilà. Hein.
Nous étions quatre garçons, mais il y avait des familles de 10, 11 enfants. Donc voilà, il fallait nourrir tout le monde, c'était pas facile. Hein.
Dans les années 1950, la France entière fait face à une crise du logement, la Charente aussi. Exode rural, immigration, besoin de main-d'œuvre dans les grandes industries. Les villes voient affluer de nouveaux habitants et de nouvelles habitantes. On dénombre alors en France 350 000 logements insalubres et un déficit de 3 millions d'habitations. C'est dans ce contexte que, aux portes d'Angoulême, Bassot devient un quartier, un lieu de vie.
Il y avait donc toutes ces anciennes maisons, ces bâtiments-là qui dataient de la guerre, qui étaient vraiment insalubres, hein, parce qu'il y en a qui n'avaient pas de vitres aux fenêtres, hein, qui mettaient du papier journal aux fenêtres, et tout. Hein, il y en a qui ont été vraiment malheureux, le froid et la faim, parce que moi je connais des familles, il n'y avait plus de père, ils étaient 7 enfants, ben, la maman travaillait, mais le bout de viande qu'il y avait, c'était pour la maman parce qu'elle travaillait. Hein. Et ils mangeaient ce qu'ils pouvaient. Hein. Il y avait des malheureux, hein, c'est vrai.
Voilà, c'était l'urbanisme était fait un peu bizarrement, si tu veux. Tu avais des blocs de maisons comme ça, une rue latérale, une autre rue qui coupait comme ça, et des blocs comme ça. Moi, ça me faisait penser à un camp. Nous, quand on dit Bassot, on pense souvent à camp, parce que c'était l'image qu'on avait. Des maisons faites toutes sur le même acabit, tu avais une entrée, une pièce principale, un couloir et des pièces comme ça, mais c'est tout, il n'y avait rien d'autre en fait. Hein. C'était du dur.
On n'avait pas du tout de...
On
n'avait
pas de douche dans les maisons. Hein.
Non.
Le matin, quand on allait à l'école, hein,
pas douche.
C'était vite, l'eau n'était pas chaude. Hein. Oh ben, pas d'isolation. L'hiver, quand il faisait bien froid, on voyait la glace sur nos murs à l'intérieur.
Et donc, nous étions quand même quatre, avec mon grand-père, ma grand-mère, papa, maman. Donc nous étions huit. Donc, dans une chambre, il y avait toujours, papa, maman, dans une chambre, avec un petit lit à côté, qui était pour le dernier des arrivés. Mmh. Donc, nous étions quatre à l'époque. Mmh. Après, il y avait une grande pièce, où au fond de cette pièce, il y avait deux grands lits de 140, où mon grand-père et ma grand-mère couchaient dans un lit de 140, et les trois enfants qui restaient ont couché trois dans ce sens, l'autre dans l'autre sens, hein, au pied. Celui qui était au pied changeait la semaine d'après, parce qu'il ne pouvait pas sentir les pieds. Et donc, il y avait une cuisinière, une grosse cuisinière, et puis une table, des chaises et un buffet. À bois et à charbon. Donc là, bien sûr, nous sommes arrivés là. Mon papa avait trouvé une place à la Société Nouvelle, qui travaillait avec les papeteries Laroche-Joubert, c'est-à-dire qui faisait tout l'entretien de cette papeterie. Et donc, il a travaillé là. Il travaillait très, très dur parce qu'il travaillait là. Le samedi, il allait travailler chez un charbonnier, il prenait tous les sacs de charbon pour livrer tous les gens à la cité de Bassot.
Et de 6h à 10h le soir, il allait aussi.
Chacun avait un jardin avec des haies fleuries. Enfin, moi, j'ai encore dans le nez l'odeur de ce qu'on appelait les fusains, qui devaient être du Troène, en fait. L'été, vous voyez, des choses comme ça. Et tout le monde avait à cœur de... Par exemple, il y avait Monsieur Talon qui avait un jardin splendide, je me souviens, avec des arômes, des trucs qui reviennent.
Nous obligeait à
donc jusqu'en 1900, on est resté donc jusqu'en 1970.
72. Papa n'a pas connu le. Papa il est mort en 70, il n'a pas connu
le haut.
Quand on a
ouais.
déménagé. 71. C'est moi qui ai déménagé tout seul.
Et on est mieux habité dans le petit HLM qui est là, ici.
Voilà,
ici. Ma mère est venue s'installer là.
À partir de la fin des années 1950, La cité de Bassau se modernise et les premiers grands ensembles sont construits à côté des baraquements encore habités. Ces habitations précaires sont détruites progressivement au cours des années 60 et 70 et les habitants et habitantes relogés, la plupart en HLM.
On déménageait j'ai déménagé avec ma mère la nuit, avec une bourouette. On a amené vraiment le strict minimum. Tout le reste, ils ont tout couché avec la maison. C'est tout parti. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien de récupérable.
À la fin des années 1970, presque toutes les baraques ont été démolies. L'ancien camp de Bassau laisse la place à un nouveau décor qui efface les lieux de l'enfance de centaines de Charentais et de Charentaises.
Quand elle a été détruite, j'étais venu quand le bus l'a écrasé. C'était difficile. Hein. C'était. On a bien compris que plus jamais on pourrait revoir les lieux, plus jamais on en parle, mais on ne peut pas emmener quelqu'un sur les lieux. Ça n'existe plus. Oui, c'était beaucoup de nostalgie, même encore. Hein.
Quelle mémoire peut-on transmettre quand on vient d'un quartier qui n'existe plus? La cité de Bassau est toujours bien présente à l'ouest d'Angoulême, mais elle s'est transformée au fil des politiques de rénovation urbaine. Elle n'a cessé d'être reconstruite, chaque réaménagement engloutissant le précédent. Le camp de Bassau n'existe plus que dans les souvenirs des anciens enfants qui y ont grandi. Et quand ils et elles ne seront plus là, il aura définitivement disparu.
Est-ce que vous y êtes retourné l'une et l'autre à Bassau?
Oh oui, mais moi c'est que j'étais un peu perdue.
Je suis perdue.
Donc moi j'y suis passée par là-bas, mais je me suis dit mais où c'est que je suis là? Mais je connais plus où c'est. Moi j'avais des copains dans tout Bassau hein, quand j'ai 13 ans, 14 ans. Ouais. Ah, oui, tout à fait en haut de la cité, d'un côté, de l'autre. Allez, on s'appelait pas, on n'avait pas de téléphone. On marchait, hop, on allait les voir. On a marché. Hein. Oh là 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 là.
Tout le monde, il me semble que tout le monde faisait un effort pour que ce soit le plus agréable possible, et ça l'était. Moi, j'aimais beaucoup autour de ma maison, les autres maisons. Ça, c'était agréable. C'est sûrement ça qui fait la nostalgie, quoi. C'est qu'on a connu des moments très, très chaleureux, très...
Ah oui, non, vraiment... Moi, j'ai toujours souvenir, puis je m'y vois encore. Hein. C'est incroyable. Hein.
Ah oui. Il y a eu des réunions d'anciens de Bassau, mais on rit de repenser à tout ce qu'on a vécu. C'était génial.
Cette production sonore est un prélude au documentaire des souvenirs familiers Bassau, mémoire d'enfance des années 50. Écrit et réalisé en 2024 par Léa Grange et Myriam Hassoun. Une production Passerelle Images en partenariat avec les archives de la Charente. Avec les voix de Myriam Hassoun, Jackie et Claude Gauthier, Annie Triel, Mireille Gouge, Ahmed Hassoun, Philippe Gabot. Réalisé avec le soutien financier de Grand Angoulême via les Sentiers Métropolitains. Cette œuvre a également reçu le soutien du département de la Charente, de l'Augélia et de l'ARU, Association Régie Urbaine.